Dit, c'est la vache cachée de l'histoire. Et c'est vrai que il y a ce que l'on voit, et il y a ce que l'on ne voit pas. Et ce que l'on ne voit pas est plus important que ce que l'on voit. C'est si vous avez vu des bon, vous avez peut-être pas vu d'iceberg. Il fait un peu trop chaud par ici pour les icebergs. Mais plus au nord, eh bien, il y a des blocs de glace qui sont dans la mer. Et certains sont immenses, immenses. Et mais ce que l'on voit, c'est rien à côté de ce qui est sous l'eau, sous la mer. On voit seulement 1/8 d'un iceberg. C'est-à-dire qu'il y a sept parties semblables à ce que l'on voit qui sont en dessous. Alors, ça fait beaucoup. C'est le les dans l'histoire, eh bien, c'est à peu près cela. Il y a ce que l'on voit, et nous sommes impressionnés par ce que nous voyons. Mais en fait, c'est pas la totalité de la chose. Il y a beaucoup plus. C'est donc il y a une œuvre de l'ennemi de Dieu qui est derrière l'histoire. Vous avez beau faire, si vous ne comptez pas que l'ennemi est derrière l'histoire, eh bien, vous n'avez pas compris l'histoire. Parce que, bon, j'ai lu beaucoup de choses sur l'histoire du monde, sur l'histoire de l'Église, j'ai vu pas mal de choses et je me suis souvent dit, mais qu'est-ce que vraiment? C'est stupide. Ils auraient dû réfléchir. Pourquoi ont-ils fait ça? Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un derrière. Ce n'est pas comme l'homme, pour être plus clair. Quand Adam et Ève ont péché au jardin d'Éden, ils ont donné à Satan le gouvernement du monde. Avant, c'était Dieu qui gouvernait. Mais quand Satan a trompé Adam et Ève, qu'ils l'ont écouté, ils ont écouté sa parole. Ils n'ont pas écouté la parole de Dieu, ils ont écouté la parole de l'ennemi de Dieu, du diable. Donc, ils sont devenus ennemis de Dieu eux-mêmes. Et ils ont créé un monde qui est ennemi de Dieu. C'est voilà la chose comme elle a commencé. Déjà, dès le départ, il y avait un conflit quand Satan a voulu mettre son trône au-dessus de Dieu. Ça, c'est ce qu'on va voir plus tard quand on va parler de Satan lui-même. Il y a un moment où Satan a voulu prendre le contrôle des choses, mais Dieu ne lui a pas laissé le pouvoir. C'est lui-même qui garde le pouvoir. Satan a été déchu. Il est déchu de ce qu'il était. Il est devenu un ange déchu. N'oubliez jamais que Satan est un ange. C'est un ange mauvais, méchant, mais il a été créé comme une créature angélique. Voilà. Et c'était même le plus puissant des anges, et c'était le plus beau, c'était le plus sage, c'était le plus tout. Il n'y avait aucun ange qui était au-dessus de lui. Il était l'ange suprême au-dessus de tous. C'est bon. Donc, dans notre monde, Satan essaye toujours de faire croire autre chose à son sujet. Soit que c'est lui qui finalement a tout en main et que tout se terminera par sa puissance à lui et qu'il va arriver à ce qu'il a décidé. Et là, une autre chose, alors c'est toujours en Satan, il y a toujours un paradoxe. Hein, c'est comme ça qu'on dit. Il y a un conflit d'idées. Il dit une chose et son contraire. Donc il laisse penser qu'il est tout-puissant, qu'il est plus puissant que Dieu, que c'est lui qui a la vérité, que c'est lui, c'est lui, c'est lui. Mais d'un autre côté, il laisse entendre qu'il n'existe pas. Tout ça, ce sont des contes. Vous vous rendez compte, mais le diable, on ne va pas s'imaginer que le diable avec une fourche et des cornes et des sabots et tout rouge et qui met les gens dans la marmite et qui remue le chaudron. Allons. Il y a de notre côté les gens qui disent, mais on ne va pas croire au diable quand même, vous n'allez pas nous parler du diable. Vraiment, il n'existe pas, c'est une légende. On identifie le mal à une créature, mais c'est pas. Et c'est l'autre côté. C'est l'autre côté de la face cachée. Il y a deux idées. Il y a les gens qui croient exagérément et des gens qui n'y croient pas assez. Voilà. En fait, il n'y a jamais un juste équilibre. Mais nous, chrétiens, nous ne devons pas être dans ces fausses idées. Ce personnage existe réellement. Il est puissant, il a une autorité. Il est même dit que nous ne devons pas insulter les autorités, même diaboliques. Il y a des gens qui le font et pour leur propre ruine. On n'a pas à le faire. On ne lui rend pas d'honneur, on ne lui donne pas gloire, il ne mérite pas. Et la gloire, même si elle revient qu'à Dieu, il n'y a que Dieu qui mérite la gloire. Donc aucun être humain, et le diable encore moins, ne mérite la gloire. Donc nous n'en parlons que juste ce qu'il faut, et nous savons ce qu'il est, et nous devons savoir ce qu'il est et ce qu'il fait, et pourquoi il le fait. C'est pour cela que je prends la peine de vous parler de cette face cachée de l'histoire, de ce qui est derrière tout cela. Parce que nous avons l'illusion que tout ce qui se passe est quasiment. C'est le cours des événements, le cours de l'histoire. Il y a comme, on pourrait dire, un hasard. Et il n'y a pas de hasard. L'homme a choisi Satan comme maître, et Dieu, eh bien, tient compte du choix de l'ennemi, du choix de l'homme. Et c'est si l'homme a fait le choix de Satan, eh bien, Dieu n'a pas éliminé Satan pour dire, mais maintenant, puisqu'il n'est plus là, l'homme va se tourner vers moi. Non, l'homme a quand même toujours le choix. Et c'est vrai que si on veut voir, l'histoire penche du côté de l'ennemi de Dieu, les événements, plutôt que du côté de Dieu. C'est l'histoire de chaque être humain. Parce que l'histoire de l'humanité, c'est notre histoire à nous. Nous avons une histoire de l'humanité, mais chaque individu, chaque personne est un acteur de cette histoire. Alors on ne va pas avoir notre nom, probablement, notre nom ne sera pas dans les livres d'histoire. Mais néanmoins, notre vie fait partie de l'histoire. Et nous avons une histoire. Et comme je vous ai dit, derrière les événements de l'histoire, il y a l'ennemi de Dieu. Derrière les événements de notre vie, il y a aussi l'ennemi de Dieu. Ce n'est pas quelque chose de bizarre, d'étonnant, de particulier, mais c'est comme cela. Parce que nous faisons partie de l'histoire. Nous sommes dans l'histoire. Nous sommes des acteurs de l'histoire. Pas des acteurs connus. Nous sommes des acteurs de seconde zone, de tout ce que vous voulez. On n'est pas sur l'affiche. Ça, c'est pas très important, mais néanmoins, nous sommes acteurs. Comme je vous ai dit aussi la semaine dernière, eh bien, il y a un conflit entre Dieu et Satan. Satan est l'ennemi de Dieu. Et ça, ce n'est pas Dieu qui est en conflit avec Satan, c'est Satan qui s'est mis en conflit avec Dieu. Et par la force des choses, il y a un conflit de Dieu contre Satan. Parce que les œuvres de Satan, Dieu les désapprouve, il les condamne et il les juge. Et s'il ne les juge pas tout de suite, elles seront jugées plus tard. Et donc ces jugements font partie aussi de l'histoire. Et il y a des moments où nous constatons un cataclysme. Voilà, il y a un cataclysme à un certain endroit et nous disons quand même, il y a des. Oui? Mais il y a un jugement de Dieu aussi. Alors comme le Seigneur Jésus le disait, les gens sur qui est tombée la tour de Siloé, étaient-ils plus pécheurs que les autres? Il n'a dit pas du tout. Ils étaient aussi pécheurs que vous, et vous êtes aussi pécheurs qu'eux. Il a dit seulement, le jugement est tombé sur eux plus rapidement que sur vous, pour que par cet exemple, vous preniez conscience qu'il y a un jugement à venir et qu'un jour, vous pouvez être dans le train et partir avec c'est fini. Aujourd'hui, c'est terminé. C'est le dernier jour. Et il y a, pour l'être humain, toujours un dernier jour. Et c'est le jour où nous allons rencontrer face à face, Dieu face à face, et où nous allons avoir la révélation de ce qu'ont été les choses et leur réalité. Alors ce n'est plus, il y a la face cachée des choses qui est très importante. À ce moment-là, elle sera visible. Et elle sera tellement visible que les choses qui nous ont tellement impressionnés pendant notre vie, ils vont dire, mais tu étais impressionné par ça? Mais ça n'avait vraiment rien d'impressionnant. C'était tout à fait quelconque. C'est le plus impressionnant, c'est ce que tu ne voyais pas. Il y a de Satan a un plan. Et quand vous regardez, bon, plan du diable, hein, c'est le... dans Satan, il n'y a pas de sagesse, de vraie sagesse. Il n'y a pas d'intelligence. Même s'il est intelligent, il n'a pas d'intelligence. Excusez-moi de le dire comme ça. Il a néanmoins un plan. C'est un plan sommaire, brutal, sans aucune finesse. C'est un plan, si Dieu est pour quelque chose, lui il va être forcément contre. Si Dieu est saint, Satan sera forcément impur. Si Dieu est joie, Satan va toujours mettre la colère et la dispute. C'est toujours, si Dieu fait une chose, Satan va essayer soit de faire la même chose en la Saint-Jean, soit il va essayer de la contredire et de la détruire et de la discriminer, de la faire descendre. Vous vous rappelez ce verset que j'ai déjà cité, tous ceux qui voudront vivre pieusement en Jésus-Christ auront des persécutions. Dès que vous vous attachez à Dieu et que vous marchez avec Dieu, Satan s'occupe de vous. Et il vous attaque et il essaye de vous détruire. C'est tout de suite, c'est le plan. Voilà son plan. Il n'a pas un vrai plan. Il est en réaction. Il est toujours en réaction contre Dieu. Alors lui, Dieu a un plan. Dieu veut que nous soyons heureux, par exemple. Il veut que l'on le glorifie. Mais Satan, son plan, c'est exactement le contraire. Il ne veut pas que nous soyons heureux. Il veut que nous nous haïssions les uns les autres. Il veut que nous nous battions les uns les autres. Il veut que nous ayons la jalousie les uns vis-à-vis des autres. Et parce que Dieu n'est pas... Ce sont des choses qui déplaisent à Dieu. Donc il essaye toujours de nous pousser à ce qui déplaît à Dieu pour que nous soyons en désaccord avec Dieu. Que nous soyons en porte-à-faux vis-à-vis de Dieu. C'est son plan. C'est toujours nous pousser au péché, à la désobéissance, à la tiédeur, tout ce que vous voulez. Tout ce qui est contre la volonté de Dieu. Son plan, c'est de nous détruire vis-à-vis de Dieu. Et il se dit bien, eh bien, puisqu'il tombe dans le péché, Dieu va les juger. Vous rappelez l'histoire de Balak? Vous ne connaissez pas Balak? Balak avait fait demander à un prophète qui s'appelait Balaam, de venir maudire le peuple d'Israël. Alors, et là, vous avez le plan diabolique, hein, il est là. Dieu a un peuple, et Satan veut la destruction de ce peuple. Alors, le peuple a été tenté de toutes sortes de manières, il y avait des gens corrompus au milieu du peuple, et ce Balak, qui était un ennemi d'Israël, et qui avait peur d'Israël, eh bien, a fait chercher un prophète pour qu'il maudisse Israël. Mais le prophète ne pouvait pas maudire. À chaque fois qu'il ouvrait la bouche, il prononçait des bénédictions. Sa bouche ne pouvait pas le dire. Parce que Dieu combattait contre Satan, qui voulait faire parler contre le peuple d'Israël, parce que c'était son peuple. Et Balaam a eu une astuce. C'est là que je vous dis que Satan n'est pas intelligent. Il a une astuce, une tromperie. Il, il a fait venir des étrangères qui sont venus au milieu du peuple d'Israël. Et ce, comme dit la parole de Dieu, eh bien, le peuple s'est livré à la prostitution, à l'adultère, à la débauche. C'était quelque chose de terrible en Israël. Ils se sont dit, comme cela, eh bien, Dieu va juger Israël. Et c'est arrivé. Et c'est arrivé. Le plan était logique. C'était vis-à-vis du diable, c'était un bon plan. C'est le Finet, vous savez, rappelez, le futur souverain sacrificateur qui a cloué un homme et une femme au sol avec sa lance. Et ça lui a été imputé à justice. Dieu a dit que c'est la descendance, il descendait d'Aaron, mais Finet serait sacrificateur, souverain sacrificateur, et c'était un homme selon le cœur de Dieu, parce qu'il a arrêté la plaie qui était sur le peuple d'Israël. C'est Dieu jugeait le peuple. Mais à partir du moment où un homme a jugé le peuple, ce n'était plus Dieu qui jugeait. À ce moment-là, Dieu a retiré son jugement parce qu'un homme est intervenu pour juger. Et c'était terminé. La plaie s'est arrêtée. Et la plaie a été une très grande plaie. Je ne sais plus combien de milliers de personnes sont mortes. C'est donc le plan de l'ennemi, comme je vous ai cité cet exemple, c'est de nous amener à pécher, à tomber, pour qu'il y ait un jugement de Dieu sur nous. Alors nous disons, ben, si je fais ceci, si je fais ça ira bien, je vais. Mais nous sommes dans la désobéissance. Combien de chrétiens j'ai dû aider et qui m'ont parlé, et qui m'ont parlé d'une époque où ils allaient bien spirituellement, et à un moment, ils se sont mis dans la désobéissance, et ils ont commis un péché qui a, je ne peux pas dire, qui avait une certaine gravité, dans le sens où, de ses conséquences, ce sont des conséquences non seulement immédiates, mais pour la vie. Il y a des personnes qui se sont handicapées pour la vie. Leur vie chrétienne est diminuée. Toute leur capacité à marcher dans la vie chrétienne a été brutalement arrêtée parce que sont tombés dans un certain péché qui les a cloués, complètement arrêtés. Donc, Satan essaye de nous amener par le péché, par les désobéissances, à ce que Dieu prononce un jugement sur nous, à ce qu'il nous frappe, à ce qu'il y ait des choses graves dans l'Église. Et il est arrivé que des chrétiens soient morts. C'est prématurément. Parce qu'il y a des jugements de Dieu qui sont tombés. Certaines morts subites se pourraient avoir une bonne explication dans ce sens. Tout le monde ne le sait pas. Mais il y a un auteur chrétien, par exemple, dont les livres ressortent maintenant. Mais cet homme est tombé dans un grave péché. Il est mort en flagrant délit dans le péché. Donc ça a été un scandale dans les années 70. Oui, les années 70. C'était un scandale. Et tout le monde le savait, les livres ont été retirés des rayons, des librairies. Plus personne n'en parlait. Cet homme, plus personne ne parlait de lui. Et puis maintenant, les livres sortent parce que l'événement a été oublié. Mais je suis persuadé que cet homme, parce qu'il vivait dans le péché, a été frappé de Dieu instantanément à ce moment-là. Donc Satan essaye toujours de nous amener dans une situation où Dieu va pouvoir prononcer un jugement sur nous. Dieu ne veut pas notre destruction, mais Satan veut notre destruction. Et il sait que Dieu est saint et il sait qu'il juge le péché. Qu'il le juge ou qu'il le jugera. Mais Dieu ne reste pas insensible au péché. Donc Satan essaye toujours de nous tenter et de nous amener au péché, de nous amener à la désobéissance pour que nous puissions être jugés par Dieu. Ça, c'est un plan secret. C'est l'arrière-plan. C'est ce que vous ne voyez pas. C'est le plan de l'ennemi, c'est son plan secret. Quand il veut que nous déshonorions Dieu, notre vie chrétienne, nous sommes sauvés par le sang de Jésus-Christ, lavés par le précieux sang de Jésus-Christ. C'est une gloire immense. Christ a donné sa vie sur la croix, Il a été vainqueur de la mort, il a écrasé la tête de l'ennemi, il a vaincu le péché, il a traversé le ciel, il a porté son sang dans le lieu très saint. C'est quelque chose de merveilleux. Et nous acceptons le Seigneur Jésus comme notre sauveur et nous sommes au bénéfice de ce salut. Mais quand nous vivons dans le péché, que nous tolérons une habitude de péché, eh bien à ce moment-là, nous déshonorons celui qui nous a sauvés. Nous déshonorons celui qui a donné sa vie pour nous, qui a payé un si grand prix pour que nous puissions être sauvés. C'est alors que Dieu voudrait qu'on l'honore et que notre vie chrétienne, sauvée par grâce, soit un triomphe du crucifié, de celui qui a donné sa vie pour nous. Eh bien, nous, quand nous vivons dans le péché, dans la désobéissance, eh bien, nous nous traînons des attitudes qui font perdre à Dieu toute sa gloire. C'est alors qu'il pourrait avoir gloire par notre vie, eh bien, nous le déshonorons. C'est Paul disait, certains marchent en ennemis de la croix de Christ. J'en ai déjà parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. C'est certains marchent en ennemis de la croix de Christ. Ils font l'œuvre du diable, c'est-à-dire qu'ils sont sous la domination, sous l'autorité de l'ennemi de Dieu. Alors quand nous sommes nés de nouveau, réconciliés avec Dieu, nous ne pouvons pas être possédés par le diable. Mais néanmoins, nous pouvons largement être influencés par le diable. Hein. Il y a certaines paroles et certaines pensées qui sont dites entre les chrétiens qui ne viennent pas de Dieu. Ça, je peux vous garantir. Et ce n'est pas derrière l'être humain, il y a le diable lui-même. Il y a certains conseils, certaines paroles qui sont dites. Ce sont de véritables conseils et paroles diaboliques. Et parfois, elles viennent de très haut. Et parfois, vous les trouvez dans des livres chrétiens. Il y a des choses qui sont dites, et je préférerais que jamais aucun chrétien ne les ait lues, parce qu'elles sont là pour détruire la foi, pour faire descendre un chrétien, pour l'amener à se confier en lui-même et ne plus se confier en Dieu, ne plus compter sur Dieu. Donc c'est, comme je vous ai dit qu'il y a un plan, il y a une lutte, il y a un combat permanent. Il n'y a pas une seule seconde dans l'histoire de l'humanité sans le conflit. Satan est toujours actif pour détruire l'œuvre de Dieu. Toujours. C'est comme cela. Notre rôle dans ce combat, c'est de glorifier Dieu. Nous savons que l'issue du combat est prévue d'avance. Que Dieu va triompher et que le triomphe de Dieu sera plus grand que ce que nous avons vu. Satan semble triompher, il semble être puissant, être très puissant, dominer le monde maintenant, mais je peux vous dire une chose, Satan a toujours fait une œuvre qui le trompe. Satan est trompé par lui-même. Il est un menteur, il se ment à lui-même. Il croit qu'il triomphe et en fait, il a perdu. Et les signes de sa défaite sont évidents partout. Alors bien sûr, il vient de vous dire, ah non, il semblerait qu'il y a beaucoup de gens, pas autant de gens sauvés, il y a beaucoup d'inconvertis quand même dans ce monde. Je ne peux pas dire, j'en sais rien. Je sais qu'il y a des inconvertis, je sais qu'il y en a beaucoup, et je sais qu'il pourrait y avoir plus de chrétiens. Mais je ne peux pas imaginer une seule seconde que mon Dieu n'ait pas la victoire finale. Et qu'un jour, eh bien, on va se retrouver en train de se regarder. Ah, c'est dans ce petit coin du ciel que nous nous retrouvons. C'est pas possible. Satan s'est trompé et il ment. Donc il n'y a pas de, il y a beaucoup plus que ce que l'on voit. Et je suis rassuré. Cela ne doit pas nous empêcher de continuer à témoigner, à gagner des âmes, à construire l'Église, à marcher fidèlement. Mais finalement, Dieu aura le triomphe et la victoire. L'ennemi est vaincu. Donc, notre victoire à nous, elle est dans sa victoire. Parce que Christ a vaincu à la croix, nous sommes vainqueurs. Ce n'est pas par nous-mêmes, ce n'est pas par nos forces, par notre intelligence, ou parce que nous sommes purs ou de meilleurs chrétiens que les autres, mais c'est la victoire de Christ qui est notre victoire. C'est dans sa victoire que nous sommes plantés. C'est là que nous prenons racine et que nous nous épanouissons et que nous portons du fruit. C'est parce qu'il a été victorieux, qu'il a triomphé, qu'il est sorti vainqueur du tombeau, parce que son œuvre sur la croix était parfaite, accomplie au-delà de tout ce que l'homme pourrait imaginer. C'est le plan de Dieu accompli parfaitement. Il ne manque rien. Aucun détail n'a été oublié. La résurrection de Christ est la preuve évidente que sa mort sur la croix était pleinement suffisante. Nous trouvons dans l'histoire beaucoup de personnes qui ont vécu des moments très difficiles. Vous pourriez mentionner des multitudes de chrétiens qui ont été persécutés. Et je peux vous dire une chose, Satan, c'est un sadique. Vous dites, mais le sadisme, mais c'est lui qui est le père de tout cela. C'est derrière tous les raffinements de cruauté, de la perversité qu'il y a dans la méchanceté, il y a l'esprit diabolique. C'est lui qui est à l'origine de cela. Il n'est pas quelqu'un de qui est... on n'est pas l'être humain n'est pas plus méchant que lui. C'est lui qui est l'inspirateur de la méchanceté. S'il y a des méchancetés sur la terre, on peut se dire, mais comment des gens peuvent-ils être aussi ingénieux au mal? Ingénieux au mal. Ils ont de l'intelligence pour faire le mal. Il y a des coups. Je vous dis, mais comment c'est possible? Un jour, j'ai reçu un coup de téléphone. Alors, il y a un monsieur qui me disait qu'il avait un problème. Son fils était en prison. Il était venu pour le voir. Il est dans une chambre d'hôtel. Et il avait reçu une lettre comme quoi son fils, il ne pouvait pas le voir tout de suite. Il pouvait le voir que dans une semaine. Mais il était là, il n'avait pas les moyens de subvenir à ses besoins. Alors moi, je suis crédule, hein, naïf. Bon, c'est sûr que maintenant, je suis moins. Mais donc, je suis allé le voir et j'ai discuté. Et il m'a montré des coupures de journaux. Il y avait tout. Un dossier épais, et des feuilles, des pages, des documents signés par des gens et tout, et tout. Bon, il m'a emprunté, à l'époque, c'était 500 francs. Il m'a emprunté 500 francs. Il m'a dit, je vous les rendrai demain. Demain, on a eu d'autres depuis. Comme je vous parle en franc, ça fait bien longtemps. Il y en a un autre qui est venu. Il m'a dit, oui, vous savez, je suis un artiste, je vivais dans l'homosexualité, mais je voudrais en sortir. Et il m'a dit qu'il avait parlé de la SACEM. Oui, si, je connaissais la SACEM. Et puis, il m'a parlé de non-chrétiens. Il m'a dit qu'un tel, oui, je l'ai rencontré. Il m'a parlé quand un tel est venu à tel endroit. Et il me parlait de chrétiens que je connaissais. C'était mes amis. Alors, finalement, ben, je donnais 500 francs aussi. C'était le tarif, hein, pour me tromper. Et puis finalement, eh bien, il m'a rien donné. Et là, ce qu'il y a, c'est le problème, c'est que le jour où la personne m'a roulé de cette deuxième fois, eh bien, il y a quelqu'un qui m'a téléphoné en me présentant une histoire semblable. Ce jour même où j'ai compris que j'avais été roulé, je dis, ah non, monsieur, il y a quelqu'un qui est passé avant vous. Alors là, pour quelque temps, je suis un peu vacciné. Je ne serai pas aussi crédule, il faudra attendre un petit peu. Mais je me dis, ingénieux au mal. C'est leur histoire, elle tient la route. Ils ont des papiers. Ils ont des documents, ils ont des tampons, ils ont des signatures, vous pouvez lire les papiers. Je dis, mais c'est pas possible, hein. C'est pas possible. C'est le derrière l'être humain. C'est vrai que l'être humain peut être corrompu, il est par nature méchant et pervers. Mais s'il ne l'est pas assez, derrière lui, il y a quelqu'un qui est encore plus pervers et plus corrompu. Et qui peut encore plus tromper. Donc, si vous avez, je vous ai parlé tout à l'heure d'Israël, mais c'est une image même du plan de l'ennemi pour détruire un peuple, le peuple de Dieu. C'est le peuple de Dieu, Israël. Vous avez beau faire tout ce que vous voudrez, c'est le peuple de Dieu. Après, je vais vous dire, j'ouvre une parenthèse, j'aime les Juifs, mais je ne cautionne pas tout ce qu'ils font. Les Juifs sont des êtres humains comme les autres. Ils sont pécheurs comme les autres, et ils ont besoin de Jésus-Christ comme n'importe quel être humain. C'est exactement ça, hein. Donc si vous voyez des choses qui se font mal, et vous dites, c'est un Juif. Mais bien sûr, mais n'importe quel autre être humain l'aurait fait. C'est pas eux qui ont le monopole des mauvais coups. Mais c'est vrai qu'ils en font quelques-uns aussi, hein. Mais il ne faut pas être aveugle, il ne faut pas être angélique, ce que l'on dit. Mais néanmoins, chaque juif est un élément du peuple de Dieu. Celui qui persécute le moindre des juifs, à cause de ce qu'il est juif, agit sous l'impulsion de Satan contre Dieu. C'est parce que le plan de l'ennemi, c'est la destruction d'Israël. C'est le plan de l'ennemi est aussi la destruction de l'Église. C'est ces deux peuples qui ont sur qui Satan a l'œil. Il regarde. Si une église dort et tout le monde est sans problème, on vient au culte, on n'annonce jamais l'évangile, on dort tranquillement et surtout n'éternuez pas, vous risquez de me réveiller. Donc pas de problème. Mais si une église grandit, qu'elle a un témoignage, qu'elle est fidèle, qu'elle s'attache vraiment à l'enseignement de la parole de Dieu pour le mettre en pratique, pas simplement avoir des doctrines. Parce que, comme je l'ai déjà dit, je suis pour la doctrine, et pour la vraie doctrine, la bonne doctrine, comme on dit. Mais avoir des connaissances ne suffit pas. Il faut vivre ces connaissances. Il faut les mettre en pratique. Si vous savez que vous devez prier et que vous ne priez pas, eh bien, vous savez quelque chose que vous ne mettez pas en pratique. Il vaut mieux ne pas le savoir que de le savoir et de ne pas le faire. Quand une église est fidèle et qu'elle marche droitement dans la parole de Dieu, qu'elle se conforme à l'enseignement de la parole de Dieu, mais cette église a des persécutions. C'est pas qu'elle aura, hein, c'est qu'elle a. Et elle est éprouvée dans ses membres, dans des personnes. Qui disent, mais pourquoi est-ce que je suis éprouvé? Qu'est-ce qui m'arrive? Vous êtes éprouvé parce que vous voulez marcher fidèlement avec le Seigneur. C'est votre privilège, c'est votre grâce de la part de Dieu d'être éprouvé pour le nom de Christ. Parce que vous êtes dans un combat, vous êtes dans un conflit. C'est quoi que vous fassiez, même si les inconvertis sont dans le conflit, ils sont du côté de Satan. Quand on est de nouveau, qu'on est réconcilié avec Dieu, on est du côté de Dieu. Nous sommes toujours dans le conflit, que nous soyons d'un côté ou de l'autre. C'est un champ de bataille. Et l'ennemi essaye de nous faire croire qu'il n'y a pas de bataille. Que non, non, tout va bien. Il vous arrive quelques événements, vous avez des problèmes, des épreuves. Oh oui, mais c'est Dieu qui vous envoie des épreuves, c'est Dieu qui vous frappe. C'est Dieu. C'est la faute à Dieu et vous aime pas assez. Non. C'est parce que vous voulez marcher fidèlement, Satan vous attaque et vous veut votre destruction. Il vous tente. Il essaye de vous corrompre. Il essaye de vous mener dans un mauvais chemin, de vous éloigner de Dieu, d'alourdir votre cœur, de l'apesantir par les excès du manger et du boire, par les soucis de la vie, par toutes les soucis du monde. Par le désir des biens matériels, par toutes ces choses, il essaye de nous faire rentrer dans le rang de ceux qui n'obéissent pas à Dieu, qui pensent qu'ils sont neutres, qui sont ni du côté de l'ennemi, ni du côté de Dieu. Mais le Seigneur Jésus a dit, c'est celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Et il y a un autre verset qui se trouve dans les Proverbes qui dit: Maudit soit celui qui retire son épée du combat. Nous sommes dans un combat et il y a Satan et nous devons le battre. Je me rappelle de cette remarque, c'était un Africain. Il disait: Moi, Dès le début de ma journée, je mets une bonne raclée au diable. Comme ça, il me laisse tranquille pendant la journée. Ça voulait dire qu'il avait passé un bon moment dans la prière et qu'il avait lu sa Bible et qu'il avait appris des versets par cœur et il s'était soumis à la volonté de Dieu pour la journée qui allait venir. Il avait tout remis entre les mains de Dieu. Et c'est dans cet esprit-là qu'il avait combattu et il avait gagné une victoire. Et c'était dans son manière de le dire, mais elle dit ce qu'elle veut dire en tout cas. Et il avait raison. C'est dès le début, il lui mettait une bonne raclée pour qu'il se tienne tranquille pendant la journée. Et je vous conseille la méthode, elle est pas mal. C'est donc, comme je vous ai dit qu'il y avait un combat, il y a des règles. Les règles, c'est la parole de Dieu. Paul disait que l'athlète n'est pas couronné s'il a combattu selon les règles. Si vous avez deux équipes de foot, on connaît le foot, hein, je ne précise pas, hein, c'est pas, je vous le cite parce que tout le monde en parle, mais je ne connais rien. Je ne connais même pas le nom des joueurs, donc de l'équipe française. Donc ça ne m'intéresse pas. Mais voilà, il y a deux équipes. Et il y a match de foot. Un match de foot, il y a des règles. Il n'y a pas seulement un ballon. Et parce qu'on met un ballon au milieu de 11 personnes de chaque côté, eh bien, ces joueurs jouent au ballon. C'est un match de foot. Et le match de foot a des règles. Si les règles sont changées, ce n'est plus un match de foot. Donnez-lui le nom que vous voulez, ce sera autre chose. Mais le foot a ses règles. Et ces règles sont approuvées par la fédération du foot. Et il y a une fédération française et il y a une fédération mondiale. Et les règles sont bien codifiées, bien regardées. Et il y a des experts des règles du foot. Et quand quelque chose se fait qui est contre, il y a un arbitre qui est là pour dire « Ah, c'est pas selon les règles. Quelqu'un a transgressé les règles. » Quand on transgresse les règles, on en paye les conséquences. Alors, il y a un corner, il y a tout ce que vous voulez. Hein. Mais où il y a, je ne sais plus, maintenant, oui, un carton rouge, il y a d'autres choses, je n'ai plus les noms. Mais ça ne m'intéresse pas. Donc, pour vous dire, il y a des règles. Et pour un simple jeu. Mais quand il s'agit d'un combat de cette importance à ce niveau, il y a des règles, disons, très importantes, qui ont une valeur que parfois nous n'imaginons pas. Un chrétien combat selon les règles. Pas selon ses règles, pas selon ses pensées, mais selon les règles que Dieu a établies dans sa parole. Et c'est pour cela que je vous recommande et je vous demande toujours, vérifiez la parole de Dieu. C'est dans la parole que se trouvent les règles. Ce n'est pas dans votre imagination. Vous aviez un homme et une femme qui avaient les règles entre les mains un jour. Et Satan est venu et leur a dit que les règles n'étaient pas tout à fait justes. Et ils ont écouté Satan. Et vous savez ce qui s'est passé ? Ce sont nos parents, c'est Adam et Ève. Dieu avait fixé les règles et ils n'ont pas suivi les règles. Ils ont préféré suivre les règles du diable et les règles de leur propre jugement, de leur propre pensée. Si bien qu'ils ont combattu contre Dieu et ils sont devenus ennemis de Dieu. C'est comme cela que les choses ont commencé. Quand les chrétiens ont dit « Maintenant, nous revenons à la parole de Dieu », pas aux idées qu'ont les uns et les autres sur la parole de Dieu, pas les idées d'une religion ou d'un mouvement ou d'une secte. Que dit la parole de Dieu ? Et ils ont voulu suivre avec exactitude ce que disait la parole de Dieu. Il y a même un groupe, on les appelait méthodistes, méthode, parce qu'ils ont dit non, 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 ça non. La parole de Dieu ne le permet pas, donc nous ne le faisons pas. La parole de Dieu dit ça, donc nous le faisons. Et ils se sont vraiment, c'était carré leur histoire. Ils n'ont pas voulu que quelqu'un mette ses petites idées ou ses petites habitudes et des choses comme ça. Ils ont dit non, la parole de Dieu dit cela. Je me rappelle d'un groupe de chrétiens, J'approuve pas tout ce qu'ils font, hein, et tout ce qu'ils disent, mais enfin, il y a des choses que j'approuve quand même. Et alors, mais ils avaient l'habitude. Dès que il y avait un conflit, une question qui revenait, par exemple, un frère ou une sœur qui avait un problème, et bon, d'accord, on a discuté, mais maintenant, il faudrait voir ce que dit la parole de Dieu sur cette question-là. Et alors, à partir de la parole de Dieu, à la lumière de la parole de Dieu, à la lumière de la règle, il regardait ce qu'il devait faire. Et bien des chrétiens ne se soucient pas beaucoup de la parole de Dieu parce que leur vie n'est pas selon les règles. Je me rappelle, c'est une expérience personnelle, donc elle ne me met pas vraiment en valeur, ça je peux vous le dire. Mais je lisais la parole de Dieu avec beaucoup d'intérêt, mais il y avait un passage biblique que je lisais jamais. Alors, et je n'aimais pas le lire. Et un jour, je me suis arrêté, j'ai dit, pourquoi tu ne veux pas le lire? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui te rebute dans ce passage? Et j'ai bien examiné ma vie à la lumière de ce passage, et j'ai trouvé des choses à redire dans ma vie, que j'ai mises en règle. Après, c'était fini. Mais pourquoi nous ne lisons pas la parole de Dieu? Pourquoi elle ne nous met pas en appétit? Pourquoi nous ne sommes pas altérés par la parole de Dieu? Parce que il y a des choses qui ne vont pas dans notre vie. C'est la parole de Dieu qui juge notre vie et nous n'aimons pas être jugés. Nous n'aimons pas qu'on nous dise ça ne va pas. Tu n'es pas dans le bon chemin. Alors on lit les passages préférés, les passages qui ne nous font pas de mal. Et de temps en temps, eh bien, examinez, faites un plan. Qu'est-ce que vous lisez le plus souvent? Quels sont les passages que vous évitez? Vous regardez dans l'année, qu'est-ce que vous avez lu et qu'est-ce que vous n'avez pas lu? Bon, bien sûr, il y a des livres, je ne lis pas l'Ecclésiaste tous les jours, hein. Par contre, il y a d'autres livres, oui. Il y a d'autres passages que. Mais c'est bien de temps en temps de le lire, hein. Mais c'est vrai qu'on n'y trouve pas tout ce dont on a besoin. Il y a l'Épître aux Hébreux, dans notre vie chrétienne, est plus parlante et nous sommes plus à même de comprendre des choses de l'Épître aux Hébreux que de l'Ecclésiaste. Après, si vous n'aviez que l'Ecclésiaste à lire, eh bien, vous liriez avec beaucoup d'intérêt et Dieu vous bénirait. Et vous parlerez, vous enseignerez beaucoup de choses. Mais c'est vrai qu'il y a des passages qui nous concernent davantage. Mais nous devons faire attention. Il y a des règles. Et si nous n'aimons pas être à la lumière des règles, et la parole de Dieu nous dit de marcher dans la lumière, nous devons laisser la lumière éclairer notre vie, éclairer tous les domaines de notre vie, tous les recoins de notre vie. Si quelque chose ne va pas, mettez-le en règle. N'ayez aucune pitié pour le péché. Aucune pitié pour votre chair, pour votre petit moi, pour votre petit orgueil, pour votre petite sensibilité. Tout ça, vous savez, ne vous l'emmènerez pas dans le ciel. Ces choses-là, un jour, Dieu va les condamner. Ne restez pas dans ce que Dieu va condamner. Mettez-vous carrément, droitement, dans ce que Dieu approuve et ce qu'il approuvera toujours. Donc il y a un combat selon les règles. C'est l'histoire de l'humanité. Dans l'histoire de l'humanité, nous devons faire bien attention à ce que nous voyons et à ce que nous ne voyons pas. Comme je vous ai dit, l'histoire de l'humanité, c'est notre histoire. C'est notre histoire. En petit, juste un élément, nous sommes un élément de cette humanité. Nous sommes des humains à part entière, à part entière. Et nous sommes dans l'histoire de l'humanité. Quelle va être notre détermination? Est-ce que c'est Dieu qui va prendre la première place ou est-ce que Dieu n'aura pas la première place? Donc, quelque chose d'autre prendra la première place. Je ne dis pas que c'est le diable, mais il y aura autre chose. Ce sera la matière, ce sera votre situation, votre famille, des choses qui les gens vont dire, mais quand même, on ne va pas condamner d'aimer sa famille. Oui, mais on ne peut pas l'aimer plus que Dieu. On aime ceux qui nous sont proches, mais pas plus que Dieu. C'est Dieu qu'on aime davantage. Si notre famille ne marche pas avec Dieu, nous marcherons avec Dieu. Nous faisons ce que Dieu veut que nous fassions. C'est même si ceux qui nous sont proches ne suivent pas. Et il y a beaucoup d'exemples dans la Bible de personnes qui ont fait. Certaines de personnes proches, eh bien, n'allaient plus. Le Seigneur Jésus, certains n'allaient plus avec lui. Voilà, vous avez à un moment donné, dans l'histoire du Seigneur Jésus, des personnes qui l'ont abandonné. Ils n'allaient plus avec lui. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit, ces paroles sont dures à entendre. Qui peut les écouter? Qui peut les écouter? Il a dit, ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Ils ont été scandalisés. Il a dit, et si vous voyez le Fils de l'homme remonter où il était? Et ils ont été scandalisés. Il leur a ajouté une parole qui les scandalise encore davantage. Et non seulement certains l'ont abandonné, mais d'autres ont dit, ah non, 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 là on ne peut plus suivre. Non, non, c'est fini là. Là, il dit des choses qui vont trop loin. C'est nous qui n'allons pas assez loin. C'est pas Dieu qui va trop loin. C'est nous qui ne le suivons pas. C'est nous regardons avec des préjugés humains, alors qu'il faudrait regarder avec les yeux de Dieu, avec les yeux de quelqu'un qui contemple la parole de Dieu, ce que Dieu dit dans sa parole. Voilà, nous allons terminer par la prière. Oui, Père, en effet, nous désirons te louer et te rendre grâce parce que nous pouvons nous confier en toi, nous reposer sur toi. Nous voulons te demander de nous remplir de ta sagesse, celle qui vient d'en haut, Seigneur, afin que nous soyons sages et que nous puissions faire ce qui t'est agréable, ce que tu approuves. Ô notre Dieu, viens à notre secours, viens au secours de ton Église, affermis tes enfants, soutiens-les et fortifie-les, bénis ton Église, Seigneur, protège-la de l'ennemi, protège-la de ses ruses, de ses tromperies. Rends tes enfants intelligents, Seigneur, qu'ils comprennent que ils ne peuvent pas obéir à tout ce que dit Satan, et que même parfois s'il ne s'est pas démasqué, il y a des paroles et des pensées qui sont de lui. Nous voulons te prier, Seigneur, pour que tu interviennes et que tu agisses. Oh, glorifie ton nom au milieu de nous, Seigneur, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.